Et ça me rassure aussi d'une chose, je me dis, parfois je fais tout peser sur mes épaules quand je dois annoncer Dieu à ceux qui sont autour de moi. Je me dis, tout dépend de moi, il faut absolument que je leur parle. Mais en fait, quand on voit cette création, quand on voit quelque chose d'aussi commun que la création, quand je dis commun, attention, je parle dans le sens où c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Et finalement, on s'y habitue. Et parfois, on y est presque plus sensible. Eh bien, quand on voit quelque chose d'aussi commun avec la définition que je viens de donner de la création, on se dit que Dieu se révèle à chacun et qu'il rappelle qui il est. Et cela ne nous pousse pas à l'inaction, à se dire que de toute façon, Dieu se révèle par sa création, on n'a pas annoncé la parole de Dieu, non. Mais cela nous donne du réconfort de savoir que c'est Dieu qui nous associe à son plan pour se révéler à chacun. L'image de la beauté d'un paysage me pousse aussi parfois à me demander ce que cela sera dans l'éternité. On voit aujourd'hui une création qui a subi les conséquences du péché dans le monde. Et pourtant, on s'émerveille de beaucoup de choses dans cette création. Et des fois, je me demande comment ça sera quand on sera dans l'éternité avec Christ. À quel point cette création régénérée dans l'éternité révélera de façon absolument parfaite qui est Dieu. On s'imaginera le lion jouer avec l'agneau. Peut-être qu'on pourra jouer avec le lion comme on joue avec un chat, j'en sais rien. Mais je me dis que ouais, ça sera quelque chose de magnifique et la création que l'on voit aujourd'hui n'en est qu'un avant-goût. Et puis vient cette partie qui parle de la loi. Je vais la relire. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Dans nos milieux évangéliques, on a parfois une vision négative de la loi. On sait que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors on finit par laisser de côté la loi en se disant que de toute façon, c'est secondaire, on ne vit pas par ou pour elle. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La loi est en fait essentielle, car elle révèle la perfection de Dieu et nos propres défaillances. Et il n'y avait que Jésus, en tant que Dieu fait homme, pour avoir la capacité de l'accomplir pleinement. Rappelons-nous quelque chose d'important. La loi pose un diagnostic. Et c'est Jésus qui est le remède. Mais la loi pose ce diagnostic de la séparation avec Dieu. Car nous sommes dans l'incapacité de la suivre sans jamais faillir. Jésus l'a accompli afin de pouvoir restaurer notre relation avec le Père. En fait, quand on réfléchit, la loi est nécessaire au salut. La loi est bonne. Je ne parle pas des ordonnances bien spécifiques au peuple d'Israël. Il suffit de parcourir les épîtres de Paul pour voir clairement ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est en plein accord avec l'Ancien Testament. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. L'Ancien Testament entier pointe vers la croix de Christ comme une nécessité. Car sans Messie, nous ne pouvons absolument rien faire. Jésus n'a jamais dit « Ne faites aucun cas de la loi ». Et il a même dit des choses telles que « Vous avez entendu que » et là il cite quelque chose « Et moi je vous dis » et il va encore plus loin. En aucun cas, on ne peut laisser la loi de côté et l'ignorer. Alors, certains se diront peut-être que ça fait de moi un légaliste, mais je vous dirai que non. Le légaliste n'est pas celui qui cherche à suivre la loi, mais celui qui pense qu'en faisant cela, il sera sauvé. La loi ne sauve pas. C'est Jésus seul qui sauve. Mais la loi, pardon, j'ai perdu où j'en étais. Oui, non, mais c'est Jésus qui sauve et qui nous sanctifie pas à pas. C'est Jésus qui nous sauve et qui nous sanctifie pas à pas. Et c'est ce qui nous rend chaque jour davantage capables de suivre la loi de Dieu. Bien entendu, ce processus arrivera à son terme au moment où on sera avec Dieu. Mais dans ce processus de sanctification, où Jésus nous sauve, il nous rend capables davantage chaque jour de suivre la loi de Dieu. Ce texte nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle donne du réconfort. Est-ce que c'est vraiment le sentiment que j'ai chaque jour vis-à-vis de la loi? Est-ce qu'il nous est jamais arrivé de nous dire « Là, si j'étais pas chrétien, je ferais ci ou ça. » De voir une petite faille dans un système. De voir un petit truc, on se dit « Il y a moyen de se faire de l'argent. Il y a moyen de réussir un truc, là. Il y a moyen d'avoir quelque chose que j'aurais pas sinon. » mais... Et on se dit « Ouais, mais... Ah, quelqu'un nous a rendu trop d'argent à la caisse. Ah, qui le saura ? Bon, allez, je suis chrétien, je vais quand même le rendre. » Il y a plein de petites choses comme ça. Et moi, je me dis, c'est parce qu'on est inexpérimenté et qu'on manque de sagesse. Car le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Bien souvent, notre vision à court terme, impulsive et inexpérimentée, nous empêche de voir ce qui peut arriver lorsque l'on transgresse la loi de Dieu. Et ça peut avoir des conséquences. Comme si on décidait d'ignorer ce panneau sur l'autoroute qui nous indique un virage dangereux, qui nous demande de décélérer, et on se dit « Non, c'est bon, je suis à 130, je suis bien à 130. Là, je continue. » Non, il y a un panneau avec un virage dangereux, on sait qu'il va falloir ralentir pour pouvoir le prendre. Et comment on le sait? Parce qu'on a l'expérience de la route. Et parce qu'on sait que si on va à 130 dans ce virage, on va se planter. Donc, on ralentit. De même, si on est pleinement convaincu, tout comme David dans ce psaume, que la loi de l'Éternel est absolument parfaite et qu'elle donne du réconfort, alors on se dira qu'elle va nous rendre sages, à nous qui manquons d'expérience. Et on va pouvoir enfin accepter que Dieu a une vision bien plus grande et bien plus globale que nous, et que notre vision à court terme manque trop d'éléments et d'expérience. Si le Créateur de l'univers, celui qui est à l'origine de toute chose, me dit « Mon témoignage est vrai et je rends sage celui qui manque d'expérience », alors cela doit me suffire. Et je veux vraiment m'emparer de cette promesse avec foi, en étant sûr que cette confiance est bien placée. Lorsque dans la vie de tous les jours, je fais face à un domaine où mes compétences sont faibles, voire inexistantes, et que je fais appel à un professionnel en qui j'ai confiance, et que le professionnel me dit « Vous inquiétez pas, je gère ». On lui fait confiance. On se dit « C'est bon, il m'a dit qu'il gérait, il gère ». Quand le Dieu créateur nous dit « Mon témoignage est vrai, je rends sage celui qui est inexpérimenté », je pense qu'on peut vraiment se dire qu'on a placé notre confiance dans la bonne personne. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Cette joie, cette paix, cette clairvoyance, c'est ce à quoi nous aspirons tous finalement. Tout le monde cherche la joie. Tout le monde cherche le bonheur, la clarté d'une vie paisible. La recherche du bonheur fait même partie de la déclaration d'indépendance américaine comme un droit inaliénable. C'est une quête perpétuelle que certains s'échinent à poursuivre encore et encore. Mais au final, tout est éphémère et leur glisse entre les mains. Nous pouvons vraiment vivre une vie réjouie si nous nous savons dans les mains de Dieu. Parce que de notre côté, nous faisons ce que Dieu nous commande de faire. Alors attention, je ne parle pas d'une vie sans aucun problème. Car de nombreux chrétiens vivent la persécution, vivent d'autres difficultés qui sont des épreuves très difficiles. Mais je parle de cette joie que Dieu nous donne, de cette paix qu'il met dans nos cœurs quand nous nous savons dans sa volonté. Faire la volonté de Dieu et suivre ses directives est pour nous l'assurance que nous faisons ce qui est bon et bien. Mais cette parole est vraie, les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Et là, le verset 12 arrive. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour ceux qui les respectent, la récompense est grande. Cette joie, cette confiance en l'avenir, nous vient de cette espérance que nous avons en Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. David, à l'époque, ne savait pas vraiment comment ça se passerait pour l'après. Mais il savait que l'Éternel délivre son peuple. Il en a été le témoin direct. Il s'est retrouvé à se battre contre un géant. Je ne sais pas si on réalise la chose, mais il avait cette confiance en Dieu. C'était quelque chose de formidable. Il s'est retrouvé à être traqué par un roi qui avait complètement perdu la raison. Et il avait cette confiance en Dieu. À aucun moment, il s'est dit « Non, mais Dieu ne peut pas triompher. » Il avait cette confiance que Dieu, quoi qu'il arrive, allait triompher. Dieu nous a donné une loi qui est juste. Et on voit là encore cette seconde raison qu'on a de rendre gloire à Dieu. Il y avait la création, maintenant il y a la loi qu'il nous a donnée. Et c'est vraiment un sujet où on peut se réjouir. On voit un schéma très intéressant se profiler. Dieu se révèle de façon globale par sa création. Puis il se révèle de façon plus personnelle pour celui qui le cherche. Et il le fait par sa loi. En se plongeant dans la parole, on va au-delà d'une compréhension confuse de qui est Dieu. On rentre dans un cercle plus restreint, le cercle de ceux à qui Dieu parle. Du Dieu créateur, on passe au Dieu souverain, qui est droit et juste. Et on se rend compte qu'il y a une dimension légale, et que Dieu, étant juste, va faire respecter cette dimension légale. Et là, on se dit, mais comment je fais, moi ? Moi, je ne peux pas suivre la loi par moi-même. On se rend compte qu'on a besoin d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Et là, c'est le constat que David fait quand il arrive au verset 13. « Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Qui discerne ses erreurs ? C'est une question difficile. Alors, on va essayer de penser aux dernières 24 heures, là, rapidement. Est-ce qu'on est sûr de n'avoir blessé absolument personne ? Est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir été maladroit ? Est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir ne serait-ce qu'une petite pensée qui n'était pas à la gloire de Dieu ? Certaines erreurs sont faciles à voir, mais d'autres sont beaucoup plus difficiles. Dieu, par sa parole, met en lumière certaines choses qui nous sont évidentes. Quand on s'est énervé, on se dit « Voilà, je comprends que j'aurais pas dû ». Mais parfois, juste une petite pensée fugace, on se dit même pas, mais là, cette pensée, elle n'est pas à la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est le cas. On voit là un serviteur qui ne veut rien laisser de côté. David ne veut rien laisser de côté. David vient de citer la grandeur de Dieu, qui se voit tout autour de lui par la création. Il vient de parler de ce Dieu qui est bon et juste, et qui nous laisse une ligne de conduite. Et il veut s'y conformer pleinement, en ne laissant pas la moindre petite chose de côté. Pour David, il n'y a pas de notion de petit péché mignon. Depuis quand un péché est mignon ? Il n'y a pas de ça. Quand on sait que Christ est mort pour nos péchés, on ne peut pas se dire que c'est quelque chose d'anodin. David demande à Dieu de tout lui pardonner, même les fautes dont il n'a pas conscience. Il va même jusqu'à demander à Dieu de le préserver du sentiment d'orgueil. Vous voyez l'anticipation de la chose ? C'est quelque chose qui pourrait arriver quand on a le sentiment de tout bien faire, et de ne plus rien avoir à se reprocher. Mais on pourra avoir un sentiment d'orgueil. Et David dit, protège-moi de ce sentiment d'orgueil. Quel serait l'effet d'un bon comportement si au final le but n'était pas de glorifier Dieu, mais de nous glorifier nous-mêmes, en se disant, regardez mon bon comportement. Et David demande vraiment à Dieu de le préserver de tout ça. Certains chrétiens sont parfois bloqués en pensant qu'ils ont peut-être fait ou dit quelque chose, sans le savoir, qui a offensé Dieu. Cette culpabilité les bloque et les empêche d'avancer. Rappelons-nous que Dieu est un Dieu qui pardonne et que le sacrifice de Jésus couvre une multitude de fautes. Parfois, il y a un sentiment de culpabilité. Utilisons-le de façon positive pour demander à Dieu, en ayant la foi qu'il pardonne réellement, de nous pardonner chacune de nos erreurs. Lorsque nous déposons nos fardeaux à la croix, ne les reprenons pas avec nous en partant. Si on les dépose à la croix, c'est Jésus qui gère. Dieu est un Dieu qui libère. Au verset 15, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Est-ce qu'on a toujours pleinement conscience aussi que ce que l'on dit ou ce que l'on fait, Dieu nous entend et Dieu nous voit ? Il voit chacune de nos pensées. Je me suis toujours dit que l'une des pires choses qui pourrait m'arriver serait d'avoir une télé au-dessus de ma tête qui retransmet chacune de mes pensées en temps réel. Je me dis que ça serait quelque chose qui serait absolument affreux. Je pense que plus personne ne me parlerait. Et je pense que c'est sûrement le cas pour bon nombre d'entre vous. Est-ce qu'on aurait vraiment envie de ça ? Et pourtant Dieu, qui connaît chacune de nos pensées, est un Dieu qui continue de nous aimer. C'est un Dieu qui a décidé d'envoyer son Fils sur une croix pour payer le prix de nos fautes. Nous, on est parfois capable de pardonner à quelqu'un parce qu'on se dit « Bon, là, il m'a fait un truc, ok, je lui pardonne. » Quand on voit l'ensemble des choses que l'on pense, ou que l'on fait, qu'on se dit que Dieu les voit toutes et que malgré tout, il décide de nous pardonner parce qu'il nous aime, ça donne une dimension à son amour qui est absolument infinie. Et quand on réalise ça, on se dit, Dieu est un grand Dieu. Ce Dieu créateur, qui est à l'origine de notre univers dans sa totalité, dans ses moindres détails. Ce Dieu qui a révélé sa grandeur et sa justice par une loi qu'il nous a donnée à chacun. Ce Dieu qui connaît chacune de mes pires pensées et de mes plus sombres sentiments, ce Dieu-là m'aime. Existe-t-il plus grand amour ? Et on arrive ici au bout de ce psaume, avec cette reconnaissance que l'on a besoin d'un sauveur. On est obligé de le reconnaître, qu'on a besoin du sauveur. On est obligé de reconnaître qu'on a besoin de Jésus-Christ. Dieu s'est dévoilé tout le long de ce psaume, et il a pris une dimension de plus en plus proche, de plus en plus personnelle, de plus en plus intime. Rendons gloire à Dieu, car il mérite vraiment toute la gloire. La reconnaissance de notre état nous pousse inexorablement à nous tourner vers lui pour l'adorer et le glorifier. Si, comme David, on a pleinement confiance de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, de sa perfection, de son infinie grandeur, de sa justice, de son amour, alors nous pouvons lire ce psaume en nous disant que nous adhérons pleinement à ces paroles qui sont prononcées ici. Dieu se révèle par sa création à chacun. Pour ceux qui cherchent à le connaître davantage, il révèle que sa loi est bonne. Et enfin, il y a le besoin personnel d'un rédempteur. On part de quelque chose qui est général. Chacun peut voir la gloire de Dieu à travers la création. Et on arrive vers quelque chose de plus spécifique. Ceux qui décident de plonger dans la loi de Dieu. Et on arrive vers quelque chose de profondément intime et personnel. Ce besoin que l'on a d'un rédempteur. On voit ici David qui a compris le besoin de l'intimité avec Dieu. Il y a parfois seulement certaines personnes qui décident d'entreprendre, de vraiment connaître ce Dieu créateur. Ils vont au-delà de « il y a un bon Dieu quelque part ». Oui, il y a sûrement un bon Dieu quand je vois la création. Ouais. Est-ce qu'on décide de plonger dans la parole de Dieu pour connaître ce Dieu ? Et une fois qu'on l'a fait, est-ce qu'on décide vraiment de donner notre vie à Christ parce qu'on a besoin d'un rédempteur ? Finalement, la vraie question que pose la lecture de ce psaume, c'est « est-ce que tu crois en ces choses qui sont écrites ?» Et si oui, si tu y crois, qu'est-ce que tu en fais ce matin pour toi ? En conclusion, je vous propose de relire ce passage, encore une fois, en gardant en tête chacun de ces éléments qu'on a pu voir ensemble, en nous appropriant ces paroles que David a données, et en gardant en tête de façon évidente la gloire de Dieu dans tout ça. Psaume 19, verset 1. Au chef de cœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil paraît à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes.